Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il est rare, mes bien chers frères, que la fête de Saint-Pie V rencontre, comme aujourd'hui, le dimanche du bon pasteur. Et la Providence nous invite évidemment à voir comment ce grand pape réalisa, à la suite de notre Sauveur, l'œuvre du souverain berger. Car le même Jésus qui déclare dans l'Évangile « Je suis le bon pasteur » a voulu, après sa résurrection, confier solennellement ses brebis et ses agneaux à Saint-Pierre, en lui demandant à trois reprises « Pierre, m'aimes-tu ?» et en lui répétant ensuite « Paix mes agneaux, paix mes agneaux, paix mes brebis. » Donc Saint-Pierre, et par à travers Saint-Pierre tous ses successeurs, a été établi pasteur à la suite de notre Seigneur, on pourrait dire sous-pasteur. Et le petit Michel Ghislieri, qui devait devenir le grand pape Saint-Pie V, était lui aussi pasteur, il gardait des brebis. Lorsqu'un jour, il avait 13 ou 14 ans, il vit passer deux prêcheurs, deux frères prêcheurs, deux dominicains, et il les aborda pour parler avec eux. Ceux-ci remarquèrent vite sa piété et son intelligence, et lui leur fit part du désir qu'il avait de devenir prêtre. Aussi, les deux religieux lui proposèrent-ils de proposer à ses parents de l'emmener pour faire son instruction au couvent et qu'il puisse ainsi se préparer au sacerdoce. Ses parents acceptèrent et c'est ainsi qu'il put commencer les études et que finalement il entra lui-même chez les frères prêcheurs et il fut ordonné prêtre à peine âgé de 24 ans dans des circonstances particulièrement tragiques. Car la date du 5 mai aujourd'hui, qui est la fête liturgique de notre saint, est aussi l'anniversaire d'un événement qui terrifia le monde en 1527 et qui est aujourd'hui connu sous le nom de Sac de Rome. Il y avait déjà eu 10 ans auparavant, en 1517, la révolte de Luther, qui avait commencé par mettre l'Allemagne à feu et à sang avant d'embraser toute l'Église. Mais ce 5 mai 1527, vers le soir, les guetteurs qui veillaient sur les murailles de Rome virent soudain scintiller, éclairé par les torches, les armes et les cuirasses d'une troupe nombreuse, vociférant des insultes et des menaces. C'était les troupes impériales, les troupes de Charles Quint, qui avaient quitté le Milanais et qui déferlaient sur Rome. Charles Quint lui-même, catholique, n'a pas voulu le sac de Rome, semble-t-il, mais il y avait de tout dans son armée, il y avait des Espagnols, des Italiens et surtout des Allemands, et notamment 15 000 lansquenets luthériens, et qui étaient convaincus de participer à une guerre sainte contre l'Antéchrist en jetant bas le pape de Rome. S'y ajoutaient d'autres fanatiques et des soudards qui ne pensaient qu'au pillage. Ces hommes s'infiltrèrent dans les jardins, défoncèrent les portes et réussirent à pénétrer dans Rome, qu'ils saccagèrent, pillèrent et massacrèrent pendant 7 jours. Les scènes furent effroyables, des religieuses dans les couvents furent violentées puis massacrées, les palais, les églises, tout fut pillé. Du sang coula dans les rues, on brisait les statues, on lacérait les peintures. On vit un vieux cardinal, des prélats, des évêques, traînés avec des cordes jusqu'au marché, comme des esclaves à vendre. Les lansquenets, ivres, déguisés en habits liturgiques, braillés dans les tavernes. Le sac ne s'arrêta lorsqu'il n'y eut plus rien à détruire. Et le pape Clément VII, qui était réfugié dans sa forteresse, le château Saint-Ange, ne savait pas comment réagir. De plus, les violences s'étendirent bientôt à toute la région, dans tous les états de l'Église et dans le royaume de Naples. Et c'est dans ces circonstances, quelques mois plus tard, que le jeune frère Michel Ghislieri fut donc ordonné prêtre. Et quand il revint dans son village natal, à Bosco, pour y célébrer sa première messe, entouré de sa famille, il trouva l'église du village complètement détruite. Ça n'était plus qu'une ruine noircie. Il fallut donc aller à quelques lieues de là, l'église de Cesadia, pour pouvoir célébrer cette première messe avec sa famille. Évidemment, la scène le frappa. Elle était hautement symbolique. Elle frappa d'ailleurs toute la chrétienté, d'autant plus qu'elle était accompagnée du progrès de l'hérésie protestante, non seulement en Allemagne, mais aussi en Angleterre, en Suisse et en France, et aux avancées successives des musulmans en Hongrie et en Méditerranée. Il semblait vraiment que la Sainte Église était à l'agonie, près de sa fin. Et beaucoup de bons esprits voyaient un châtiment divin. On rappelait la faiblesse et la légèreté, pour ne pas dire l'indignité, de beaucoup des récents papes, une cour pontificale encombrée de personnages indignes, de créatures méprisables. Parfois, c'était les neveux du pape qui avaient été nommés à des postes pour lesquels ils n'avaient aucune compétence. Et Charles Quint lui-même, essayant de se disculper du sac de Rome qui avait été commis par ses troupes, déclarait « Tout cela est arrivé par jugement de Dieu plutôt que par mon ordre ». Et de fait, cet événement tragique permit au moins un sursaut, puisque le pape qui fut élu quelques années plus tard, le pape Paul III, qui était loin d'être un saint, qui avait même donné des exemples assez scandaleux avant d'être élevé au souverain pontificat, décida de réformer l'Église et pour cela de convoquer le Concile de Trente. Il nomma aussi un certain nombre de bons cardinaux pour l'appuyer dans cette œuvre. Et c'est donc à partir de ce moment-là que commence cette œuvre de réforme qui fut menée par plusieurs papes successifs, Paul III, Jules III, Paul IV et enfin Pie IV. Et donc le Concile de Trente commence et mène ses travaux. Et pendant ce temps, le jeune frère Michel Ghislieri poursuit son apostolat. Sous Paul III, il est nommé inquisiteur en Lombardie, car le pape s'est rendu compte qu'il fallait quand même se préoccuper des progrès de l'erreur, et pour cela, il a essayé de réorganiser l'inquisition. Le frère s'y montre énergique, n'hésitant pas à lutter contre les libraires qui veulent diffuser des ouvrages luthériens, et à tenir tête à ce sujet au gouverneur de Milan. Ce qui fait que, quelque temps plus tard, un des successeurs de Paul III, le pape Paul IV, lorsqu'il veut réorganiser l'Inquisition, va nommer Saint Pie V à la tête de toute l'Inquisition romaine. Enfin, le futur Saint Pie V, donc le frère Michel Ghislieri, à la tête de toute l'Inquisition romaine. Et là encore, le frère se fait remarquer par son énergie et également par son refus de flatter l'autorité du pape en l'occurrence, puisque alors qu'il a été nommé cardinal, il donne toujours franchement son avis et refuse particulièrement toutes les nominations qui pourraient mettre en place des personnages indignes. Lorsqu'arrive le pape Pie IV, le frère Michel Ghislieri sera même disgracié à cause de son franc-parler, notamment. Le pape Pie IV avait cru habile de créer cardinaux deux jeunes gens, Frédéric de Gonzague, qui était âgé de 21 ans, et Ferdinand de Médicis, qui n'en avait que 13, parce qu'il voulait ainsi avoir l'appui de leurs familles, qui étaient des familles puissantes. Il en parla aux cardinaux dans son dîner de couronnement et voulut, à table même, avoir leur avis définitif. Beaucoup de cardinaux estimaient que ce n'était pas forcément une bonne idée, mais aucun n'osa donner son avis, sauf Michel Ghislieri, qui déclara clairement que ça lui semblait totalement déplacé, que le Concile de Trente était en train de décréter qu'il ne fallait appeler aux charges ecclésiastiques que des hommes intelligents, vertueux et d'un âge mûr, et qu'il ne convenait donc pas de proposer pour cardinaux des enfants qui étaient incapables non seulement de résoudre, mais même de comprendre les questions dont il s'agissait, et qui risquait d'ailleurs demain de jeter la pourpre aux orties pour s'amuser et se marier. Ce courage déplut au pape, qui nomma quand même les deux jeunes gens cardinaux. Ceux-ci d'ailleurs se crurent obligés de remercier les différents cardinaux, ne sachant pas à qui ils devaient leur élévation. Et le frère Michel se hâta de leur répondre « Vous ne me devez rien, j'ai voté contre ». Le cardinal Ghislieri est passé pour particulièrement sévère, et lorsque le pape Pie IV mourut à son tour, peu de gens pensaient qu'il pourrait être élu pape. Un des ambassadeurs écrivait même à son prince, il est trop sévère, vraiment, disait-il, c'est un homme qui ne prête pas à rire, et disait-il, il n'aura aucune voix. Il se trouve que Saint Pie V fut cependant élu, et immédiatement, il commença à exercer son programme, que l'on peut trouver résumé dans l'oraison d'aujourd'hui, l'oraison de sa fête, qu'on a entendue tout à l'heure. D'une part, lutter contre les ennemis de l'Église, et d'autre part, affermir le culte divin. Lutter contre les ennemis de l'Église, cela se fit notamment contre les protestants. On sait la part qu'il a pris en France pour défendre la France catholique, lutter contre les musulmans, puisque c'est grâce à lui que fut remportée la célèbre bataille de Lépante, qui mit un coup d'arrêt à une progression musulmane qui mettait vraiment l'Europe en danger. Mais Saint Pie V tenait particulièrement aussi à lutter pour que les autorités dans l'Église soient dignes. Il exigeait que les cardinaux et tous ceux qui avaient des postes de responsabilité soient irréprochables. Il n'hésita pas à prendre des mesures très sévères, faisant par exemple envoyer aux galères un responsable des finances qui avait trahi, faire fouetter en public un autre personnage important. Et lorsqu'il apprit qu'un de ses neveux qui avait un poste militaire à Rome avait commis une indignité, il le fit comparaître devant lui alors qu'une chandelle était allumée sur la table et lui dit « Vous devez avoir quitté les États avant que cette chandelle ait fini de brûler ». De fait, le jeune homme en question se rattrapera après en participant à la bataille de Lépante, mais il ne sera jamais de nouveau accepté dans les États du pape. Lutter contre les ennemis de l'Église, donc, et restaurer sa dignité, et en même temps affermir le culte divin. Saint Pie V avait choisi son nom de Pie par hommage au pape précédent qui avait porté ce nom-là, mais c'est un nom qui résume vraiment son état d'esprit. Il pensait sans cesse à rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Et les gens de Rome furent édifiés en voyant le nombre de cérémonies, notamment de processions auxquelles il prit part, allant à pied sous le soleil pour faire par exemple le pèlerinage aux différentes basiliques romaines pour supplier Dieu de venir en aide à son Église. C'est également de cette façon-là qu'il obtint, en demandant des prières publiques, le salut de l'Europe lors de la bataille de Lépante. Et dans ce même état d'esprit, Saint Pie V fit publier le catéchisme du Concile de Trente afin de bien établir la doctrine. Il fit déclarer Saint Thomas docteur de l'Église afin que son enseignement puisse donner la lumière à tous. Et il fit publier le missel qui porte le nom de missel de Saint Pie V, qui n'était que le missel traditionnel qui avait été révisé par ses soins pour en éliminer avec soin tout ce qui pouvait être indigne. Il fallait un saint pour couronner l'œuvre du Concile de Trente, parce que seule la sainteté peut venir à bout du péché, de toutes ces misères qui étaient dans l'Église. Et en 6 ans de pontificat, car Saint Pie V ne fut pape que 6 ans, il réalisa une œuvre considérable dont on peut dire qu'elle a donné un élan pour plusieurs siècles à l'Église. Pourtant, les historiens notent que son œuvre n'a été possible que grâce aux réformateurs qui la préparèrent et l'appuyèrent. Il y avait eu Saint Philippe Néri, Saint Charles Borromée, Saint Pierre Canisius, et puis toute la lignée, la série des saints espagnols de cette époque, Saint Jean de Dieu, Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier, Saint Pierre d'Alcantara, Saint Louis Bertrand, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Saint Pascal Bailon et encore d'autres. Je ne les nomme pas tous. Et la leçon que nous pouvons en tirer, c'est que Dieu veille toujours sur son Église. C'est lui le bon pasteur et il ne nous oublie pas, même dans la crise actuelle, qui est encore plus terrible que la crise protestante à laquelle a dû faire face Saint Pie V, puisque malheureusement les autorités romaines ne donnent pas seulement le mauvais exemple au point de vue moral, mais même au point de vue de la foi, au point de vue de la doctrine. Même dans la crise actuelle, Dieu veille sur nous. Quand et comment, nous ne savons pas, mais il interviendra un jour et nous devons préparer cette intervention de la même manière qu'elle avait été préparée par tous ces saints dont on a parlé, ceux que l'on connaît et ceux que l'on ne connaît pas, qui, face à la décadence, essayaient quand même, de façon locale ou bien à l'intérieur de telle ou telle petite congrégation religieuse, de maintenir la foi, de maintenir la sainteté. C'est parce qu'il y a eu ces efforts qui ont été faits à différents endroits que, finalement, le bon Dieu a pu envoyer un saint pour couronner l'ensemble et remettre toute l'Église sur les rails, si vous me permettez cette expression. Et nous pouvons aussi nous souvenir de cette phrase de Saint Pie V lors du premier consistoire qu'il tint après son élection, donc la première réunion des cardinaux. Il déclara « Nous ne paralyserons le progrès de l'hérésie que par une action sur le cœur de Dieu. » Autrement dit, ce pape, qui sut être tellement actif au point de vue humain, on l'a vu, en 6 ans, savait que l'essentiel n'était pas là. L'essentiel, c'était d'agir, comme il le disait, sur le cœur de Dieu, notamment par la prière. Et c'est pour ça, on a vu qu'il insistait tant sur ses processions de pénitence et sur ses appels à la prière. Et aussi pour cela qu'il a voulu que la liturgie soit rénovée et retrouve toute son antique dignité, toute son antique beauté à travers notamment le missel et le bréviaire qu'il fit éditer. Donc, en cette fête de Saint Pie V, qui est en même temps dimanche du bon pasteur, mettons-nous dans cet état d'esprit de prier pour la Sainte Église. Essayons-nous aussi d'agir sur le cœur de Dieu en nous disant que rien n'est perdu. Dieu est toujours là, Jésus est toujours le bon pasteur, il attend simplement que nous fassions notre devoir et que nous le prions, que nous le supplions sans nous lasser de nous envoyer un nouveau Saint Pie V, un nouveau bon pasteur pour l'Église, avec l'aide de Notre-Dame du Rosaire que Saint Pie V aimait tant honorer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.